Alors, ce samedi 1er février, comme promis, nous avons le témoignage d'un ancien guérisseur. Il va vous expliquer pourquoi il n'est plus guérisseur aujourd'hui. Voilà, je laisse la parole à Jacques, qui vient de Touraine. Merci Jacques d'avoir fait tous ces kilomètres pour venir nous parler. Alors, première question, d'où viens-tu exactement?
Bonjour à tous et à toutes. Je viens de Touraine, comme m'a dit Père Timothée, en Indre-et-Loire, dans le Nord, pour vous, le Nord. Un peu d'humour. Je me prénomme Jacques Boigard, surnom Jack, car mon père s'appelait Jacques Boigard, il pratiquait le magnétisme, était guérisseur avec une grosse réputation dans mon département d'Indre-et-Loire. À Monet exactement. Je viens d'une fratrie de 4 enfants. Je suis le 3e avec une sœur jumelle. Et je suis né dans une famille où je n'ai pas trouvé ma place très facilement au début. J'ai eu beaucoup de mal, introverti, timide, beaucoup de complexité chez moi. Je bégayais beaucoup, je n'avais pas du tout confiance en moi. Alors c'est vrai que pour moi, ce démarrage de vie n'a pas été très simple.
Alors, tu vas nous expliquer, Jacques, si tu veux bien, comment ça se fait que tu es mis à pratiquer les sciences occultes? Et voilà, qu'est-ce que tu as pratiqué exactement?
Alors, pour être clair, j'avais un père qui était un homme bon, mais avec un caractère très fort, qui avait un peu voyagé, qu'on va dire, qui était de 1931. Et cet homme, c'était un homme de décision. Il décidait, point. Et quand, vers mes 10 ans, il m'a dit, il va être temps. Il va être temps que tu commences. Je me retrouve dans la cour de chez mon père. Je donne un petit exemple rapide. Il y avait une colombe blanche avec le plumage tout frisé. Mon père me demande de la prendre et de m'en occuper. Occupe-toi-en. Bon, je pleure comme un môme parce que je me demandais, dis, occupe-toi-en. Il repasse, il dit, relâche-la, c'est bon, il est l'heure. Bon. Et là, j'ai commencé à me rapprocher de mon père parce qu'il l'a voulu pour développer ce soi-disant don. Dis-t'as un don. Et quand on a 10-11 ans, un don, ça ne veut rien dire. Un don, bon. Mais dis, je t'expliquerai, tu viendras. Et au fur et à mesure, il m'a fait développer tout ce que je pouvais développer chez moi, ancestral, de la famille, qui voulait dire que tu as un pouvoir en toi qui peut te permettre d'aider les autres, mais on va commencer par les animaux. Parce que si tu aides des animaux et que tu sais savoir où ils ont mal, tu pourras savoir où a mal l'être humain. Point. Alors, je vais vous donner toutes les pratiques que j'ai pu pratiquer, le magnétisme, le tarot, la médiumnité, les lignes de la main, le marc de café, le contrôle des énergies dans les maisons avec des baguettes en laiton, rebouteux, hommes-animaux, c'est-à-dire je faisais les deux, radiesthésie sur photo avec un pendule sourcier avec des baguettes, l'écriture automatique, des envoûtements, des maisons, prières sur les personnes qui étaient touchées par les esprits mauvais, astrologie, travail sur des pierres, les magnétiser, amulettes, pentacles qu'on pouvait porter sur soi. Et pour mettre aussi, pour protéger les maisons. J'avais aussi communication avec les défunts, table de Ouija, mettre un verre, faire bouger comme on veut, j'en passe et des meilleurs. Le Reiki, que j'ai connu par le biais de ma femme qui l'avait pratiqué jusqu'à peu près deuxième degré, si je ne me trompe pas, mais bon, qui n'est pas très sain non plus. Et travail avec un Bouddha. J'avais un Bouddha dans mon bureau, parce que dans mon bureau, j'avais Sainte Marie et Jésus. Et d'un côté, j'avais le bouddhisme. Pas très clair. Voilà ce que j'étais à la base.
Alors dis-nous, ta clientèle, c'était qui?
Alors, la clientèle peut vous surprendre, peut-être oui et non. La clientèle, c'était des gens, des notables, des avocats, des députés, des ministres, maires de communes, chirurgiens, docteurs, policiers, gendarmerie pour travailler avec eux, pour trouver du monde, comme la police. Les bourgeois, les petites gens, des gros chefs d'entreprise, toutes sortes de gens. En fait, c'était des gens comme vous, de tout le monde, des gens de tous les jours qui venaient me voir, me consulter. Voilà.
Est-ce que tu étais connu, réputé?
Alors, il faut savoir que quand on prend la suite d'un homme qui était Jacques Boigard père, qui avait une très grosse réputation dans le département, voire dans la région centre, voire même ailleurs, il faut vous dire que ce n'est pas évident. Je m'appelais Jacques. Alors, les Boigards. Et souvent, on venait voir les boyards que se disant on était la grosse pointure. Quand mon père est décédé en 98, dites-vous que pour moi, ça a été, je me gratte la tête, j'ai une clientèle à reprendre et j'en ai une qui arrive. Il y en a qui ont dit, il va flancher. Il y en a d'autres qui ont dit, il va relever le défi. J'ai relevé le défi. Et j'ai eu une notoriété plus importante encore que celle de mon père parce que j'ai pratiqué des choses que mon père ne pratiquait pas lui-même. Il disait, moi, je suis pas là, je vais le faire, puis tu verras ça plus tard. Tu géreras. Et si vous voulez, cette notoriété, il fallait la tenir. Et je travaillais non-stop, 7h du matin à minuit. On me donnait ce qu'on voulait. Vers la fin des années, dernières années, avant que j'arrête, les impôts, tout ça, m'ont dit, monsieur, vous êtes bien gentil, mais il y a peut-être de la fraude, ou alors vous êtes un bon fraudeur. Bon, 20 euros, et puis les deux dernières années, 25 euros, voilà.
Pas cher.
Et j'y restais une heure avec les gens, je prenais le temps. Du lundi au samedi, voire dimanche, j'allais même dans les hôpitaux accompagner les gens quand on me demandait de les accompagner.
Alors, je sais pas si t'as préparé. Tu peux un peu expliquer ce que tu faisais le plus souvent et comment tu faisais?
Alors, j'ai pratiqué beaucoup de choses. Les gens menaient pour le magnétisme, imposer les mains sur un mal d'une personne de façon de la soulager, voire la guérir. Il y a ceux qui venaient aussi pour le tarot. J'avais plusieurs jeux de tarot pour leur dire leur avenir. J'arrivais à aller dans le passé, présent, futur. Je pouvais savoir si une personne avait fumé 5 minutes avant la marque de la cigarette, ce qu'elle avait dans la tête, pourquoi elle venait. Pourquoi elle venait, pardon, je parle très vite. Non, on parle plus vite que chez vous. Ce que je veux dire, c'est que les gens venaient pour les tarots, par exemple, je leur disais leur passé. Alors, on peut me dire, j'ai fait une poubelle, ouais, pourquoi pas. Et le mec habite Paris, je ne vais pas aller faire les poubelles à Paris pour voir sa vie, non. Le présent, est-ce qu'il allait lui arriver? Et sur 9 fois sur 10, c'était rarement faux. Il y avait ceux qui venaient avec le pendule pour voir sur leurs mains, là, est-ce qu'il y a un problème dans ma famille, est-ce que tout va bien. Pour les recherches avec la gendarmerie, police, ou partir en hélicoptère pour retrouver des gens perdus. Les chiens passés ne retrouvaient pas et je retrouvais la personne. Bon, un détail. Il y a ceux qui venaient aussi avec le marc de café, en balance du marc de café, et je leur disais, il y a ça, 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 il va se passer ci, il va se passer ça. Automatiquement, mettez-vous à la place des gens, c'était toujours surprenant. Mais le plus gros que j'ai fait quand même, le magnétisme, mais tout le reste, j'ai tout pratiqué. Aller chercher des sources pour que les gens puissent creuser un puits, il ne fallait pas se tromper, parce que si je leur disais, là, il y a de l'eau à tant de mètres, il fallait que l'eau soit là. Bah oui, j'ai fait ça aussi. Tout ce que j'ai dit là, je l'ai pratiqué tous les jours. Pendant, j'ai commencé, vous voyez, j'ai arrêté à 45 ans. Et quand, imaginez, j'ai commencé à développer et pendant 25 ans sur, j'ai été à fond dans ce que je faisais non-stop. Je vivais que pour ça à 3000%. J'étais addict dans ce que je faisais, sacerdoce à fond. Et si quelqu'un venait me remettre en question sur ce que je pratiquais, j'avais un caractère avec un orgueil démesuré, mais une ingratitude totale, je disais dehors. Vous dégagez ou je vous sors. Oui, j'étais comme ça. Un ingrat total.
Alors, est-ce que ça marchait en fait, ton magnétisme?
Alors, je réponds à la question. Oui, du moment que les gens vous envoient du monde de bouche à oreille, sans faire de publicité, vous allez à Paris, on vous retrouve. Ah, vous êtes aux Champs-Élysées. Ah, monsieur Boisgard, vous allez à un autre endroit. Des gens de Monaco, des gens de l'étranger qui venaient avec un interprète, parce que autrement, j'aurais pas pu les comprendre, eux non plus. Imaginez les gens qui viennent de bouche à oreille. Si on est une bille, parlons franchement, si on est une bille, il n'y a personne. J'avais pignon sur rue. Qui ne connaissait pas M. Boisgard? J'ai arrêté il y a 7 ans en arrière, et 7 ans après, on parle encore de moi dans ma région. Est-ce que vous connaissez ce fameux Jacques Boisgard? Alors quand ça tombe sur moi, je fais, oui, oui, je l'ai rencontré. Ah ben, quel homme, on croit qu'il a arrêté. Oui, oui, il a arrêté. Alors je m'en amuse, j'avoue. Ils ne savent pas que c'est moi. Parce que je n'avais pas la même tête, je n'avais pas de barbe, pas de tout ça. Ben non. Mais quelque part, quand on a une clientèle et on travaille avec des médecins, chirurgiens, on va dans les hôpitaux, on ne fait pas venir un homme dans un service hospitalier pour arrêter un grand boulet, tout ça, si l'homme n'est pas à la hauteur, vous comprenez? Si un professeur vous demande d'intervenir sur une maladie ou sur un problème d'urgence, il dit « je vous fais confiance » et qu'il dit au service « ce monsieur, sa parole est comme la mienne », personne n'a rien à dire. J'en étais arrivé là quand même.
Alors, tu peux nous donner quelques exemples de guérisons. Est-ce que ces guérisons, à part le magnétisme, est-ce qu'elles ont duré?
Alors, avec du recul, puis je réfléchis beaucoup. Il n'y a que comme ça qu'on peut savoir et comprendre. Parlons franchement, on ne peut pas faire une guérison immédiate. La personne va venir aujourd'hui, j'ai mal là, vous voulez lui soigner un problème de peau, par exemple aujourd'hui au niveau d'une jambe, elle est contente, tout va bien. Peu de temps après, elle dit « Ah, mon Jack m'avait sorti d'affaire, mais j'ai un autre truc qui est arrivé depuis. » Elle revient avec un autre problème. Je vais aller encore plus loin dans le détail, si je peux me permettre. Et au début, elles vous disent tout simplement « Il n'y a que moi qui ai un problème dans les miens, parce que les miens, tout le monde va bien sauf moi. » Et on m'a parlé de vous, parce que je travaille à l'hôpital, de Tours, je suis haut placé, le gars me dit ça. Moi, ça me fait une belle jambe, honnêtement, ça ne changeait rien à ma vie. Hein. Il avait compris. Mais ce qui est quand même bizarre, c'est que la personne vient, après je vois la mère, la femme, les enfants, toute la famille. Parce qu'en fait, c'est comme si c'était contagieux. Il y en avait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Et ce qui est encore plus troublant, si, excusez-moi, je vous prends comme exemple, si je soigne monsieur l'abbé ici, présent ici, et qu'il revient peu de temps après pour notre problème là, je pourrais supposer, supposition personnelle, que le mal se déplace, il est aveuglement, soi-disant, soigné, mais il ne l'est pas guéri du tout, et qu'il est déplacé ailleurs. Je prends l'exemple, je vais aller encore plus loin, j'ai soigné un jeune qui s'appelait Sébastien. J'étais devenu le grand frère, un membre de la famille. À 19 ans, je le rencontre, il avait des métastases leucémie, graves. Les parents viennent me voir en urgence dans mon bureau. Je leur dis, sortez tous, laissez-moi tout seul avec lui. Je passe pratiquement 2 heures avec lui. Je transpirais de partout, je ne tenais plus debout à la fin. J'ai mis mes mains sur lui, je ne pensais pas à Jésus, parce que je ne demandais même pas à Jésus, hein. Même si j'avais Jésus dans mon bureau, pardon Seigneur. Le lendemain, il va faire un examen à l'hôpital, que je lui détourne, plus rien. Les parents me disent, ouais, il a plus rien, considéré guéri. Imaginez, moi j'ai dit, bon, s'il est guéri, tant mieux. Si je restais comme je suis là. Mais ce qui est quand même plus difficile, c'est qu'après, à peine 2 ans après, il redéclenche un autre cancer ailleurs, qui est devenu généralisé, mais plus rapide. Si j'avais vraiment guéri ce jeune homme, quand on est guéri, ça ne revient pas, non? Je ne sais pas, on peut se poser la question.
Les problèmes de peau, souvent on va voir le guérisseur pour les problèmes de peau, ça marche ou pas?
Alors, j'ai reçu des gens pour arrêter des brûlures, des zonas. Couper le feu avec la prière de Saint-Laurent. Je ne sais pas si vous la connaissez. Saint-Laurent, ô grand Saint-Laurent, vous, qui sur votre brasier ardent, tournant et retournant, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, hein. Tournant et retournant, oh, faites-moi la grâce que ce mal se passe. Voyez, je m'en rappelle maintenant, mais longtemps que je n'ai pas fait celle-là. Voilà, c'était la prière que je faisais pour les grands brûlés. Mais la brûlure, elle est estompée, il n'y a plus rien, comme si la personne ne s'était pas brûlée. Mais après, il y a un autre problème de peau qui arrive, c'est soit un érysipèle, soit un zona. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a autre chose qui revient après.
Alors tu as l'air de nous dire que, en fait, le magnétisme n'enlève pas le mal, mais le déplace, et plus grave encore, peut le déplacer dans la famille. C'est ça?
Oui. Alors, je le dis ouvertement, parce que je l'ai constaté par mes propres expériences. Ce n'est pas Pierre ou Paul, parlons-lui gentiment, un peu d'humour, qui me l'ont dit. Quand vous recevez une personne d'une famille, comment ça se fait qu'après vous avez toute la tribu familiale, excusez-moi d'être vulgaire dans ce terme, tribu, mais vous avez le mari ou la femme, les enfants, les oncles, les tantes, et je me retrouve avec une famille complète, parce qu'après on m'invitait à des banquiers de famille tous les ans, comme le fameux membre de la famille, on a voulu mettre plusieurs fois parrain des enfants, je dis, oh non, je suis déjà parrain pas mal de fois, mais vous voyez ce que je veux vous dire. C'est pas normal. Pour moi, c'est l'effet contagieux varicelle, vous voyez. Excusez-moi, le zona, c'est de la famille de la varicelle, si tout le monde ne le sait pas, mais c'est contagieux. Vous avez une personne, d'un seul coup, l'autre est touché. Et comme le fameux exemple que je vous ai donné tout à l'heure, cet homme qui vient me voir, il est le seul de sa famille à avoir un problème, les autres n'ont rien. Et comme par hasard, tout le reste vient me voir au fur et à mesure. On peut se gratter la tête, non?
Alors, tu as dit que tu faisais des désenvoûtements de maison. Comment tu faisais?
Alors, quand j'allais dans les maisons, on m'appelait parce que on me disait, tiens, il y a des esprits dans la maison, l'armoire qui bouge toute seule, tout ça. J'avoue que j'ai joué avec l'autre avec mon orgueil tellement profond et audacieux, je m'étais surnommé Tonton Jack. Et quand j'arrivais à la maison, souvent vers minuit, je choisissais l'heure minuit. On m'a dit pourquoi minuit si j'aime bien minuit. C'est un peu bizarre le mec. Hein. Et j'arrivais, les trucs se déplaçaient, il y avait des choses qui étaient hallucinantes en rentrant dans une maison. Comme l'exemple d'une maison, il fait chaud dehors, vous rentrez dedans, c'est comme s'il y avait de la glace. Je ne note pas tous les détails. Et là, je rentre avec mon sel, mon goupillon, et j'avais deux étoles que monsieur l'abbé est au courant, qu'un prêtre que j'ai connu dans un autre département que le mien m'avait laissé. Il m'appelait son petit disciple. Et ce prêtre m'avait dit, porte-les comme ça, tu seras protégé. Et moi, je portais mon étole, j'embrassais la croix, comme un prêtre, et je faisais ce dégagement de maison, avec de l'eau, des prières chrétiennes, et l'abbé Julio.
Julio.
Mon français à moi du Nord est différent du vôtre. Mais ce que je veux dire, voilà, l'abbé Julio. Ce qui veut dire, quelque part, ça va pas. Mais quand on ne sait pas.
Est-ce qu'ils le savent ?
Est-ce que vous le savez ou pas ?
Pour mémoire, l'abbé Julio, si mes souvenirs sont bons, fin 19e, début 20e, et il pratiquait l'occultisme. Et en fait, son évêque lui a demandé de choisir entre le sacerdoce et l'occultisme. Il a choisi l'occultisme. D'accord ? Et il y a donc des livres de prières merveilleuses de l'abbé Julio. C'est assez troublant parce que vous avez des psaumes et puis vous avez les fameuses prières pour passer le feu, etc. Et ça, c'est de la magie parce que même si on se sert d'une prière chrétienne, d'accord, c'est important de le savoir, eh bien, on peut faire de la magie si c'est juste la formule. Et c'est ce qu'il faisait lui. Lorsqu'il allait dans les maisons, il prenait les prières d'exorcisme de l'Église catholique. Mais vous imaginez, comme il n'était pas croyant, c'est pas Dieu qui répondait. D'accord ? Il faut bien qu'on comprenne ça. Si on dit des prières sans la foi, eh bien on fait de la magie. Vous me suivez ? Et ça a été son expérience. Et en fait, c'est blasphématoire. Pourquoi ? Lui qui n'était pas croyant, qui mélangeait Jésus et Bouddha, par exemple, désolé, Bouddha n'a rien à faire avec la vie évangélique, eh bien, il y a quelque chose de blasphématoire. Il utilisait aussi l'étole qui est réservée aux prêtres. Un diacre ne prend pas l'étole, il a son étole à lui. Mais là, il y a une spoliation. Et vous voyez, ça, c'est la tactique de l'ennemi. Donc avec les prières de l'abbé Julio, on est dans ce qu'on appelle la magie blanche. Donc méfions-nous aussi des prières qu'on va trouver sur Internet qui sont efficaces. La prière n'est pas efficace dans le sens des mots de la prière. Ce qui est efficace, c'est notre foi. Ce ne sont pas les mots de la prière. Est-ce que je me fais comprendre ? Qu'est-ce que ça a fait à la maison ?
Alors, justement, c'est bien votre question. Je comptais rebondir sur ce genre de questions.
La question, c'est qu'est-ce que ça a fait à la maison ?
Alors, ça fait comme l'effet du magnétisme. Au début, ça fait un effet, c'est résolu. Monsieur, vous êtes super fort, on nous l'avait dit, vous êtes le top. Ouais, bon, si vous voulez. Mais peu de temps après, ça revient, soit dans la même maison ou dans une maison de la même famille. Et après, ça repasse sur notre maison de la même famille. Et si l'autre, je ne donne pas de nom parce qu'il n'en vaut pas la peine, pardon Seigneur, mais je le préfère dire l'autre, d'être aussi autoritaire là-dessus, ou je ne sais pas, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut qu'on se mette bien d'accord que si l'autre, il n'a pas ce qu'il veut, il va aller jusqu'à détruire une personne. Parce que si les maisons que vous allez, vous pensez qu'elles sont dégagées, les gens sont tranquilles, tout rentre dans l'ordre, un jour on vous appelle, allô, la famille a un problème. La dernière maison ont eu des problèmes, sauf là, c'est fatal. Une personne est décédée. Pourquoi vous n'avez pas pu faire ce qu'il fallait ? Et là, vous dites, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais l'autre, il se sert. Vous voyez, on devient instrument de l'autre si on se laisse piéger par l'autre. On a notre propre liberté. Et tous ces gens qui vont voir ce genre de personnes, ils veulent tout, tout de suite. C'est réglé, tout va bien, ça y est, je vis ma life. Non, 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 non. c'est le piège du démon. Le problème, il est là. Et que si les gens, comme disait Père Timothée, si je faisais mes prières avec foi et vérité, c'est même lui qui m'a appris un jour à savoir prier. Je ne savais pas prier, et je vous en remercie. Et, oui, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que la prière, si on récite, c'est comme si, ah, je suis content, j'ai prié. Ah, le Seigneur est content pour moi. Non, 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 c'est pas vrai, ça. C'est des récitations. C'est fourbe, et c'est malhonnête. Il faut aller le chercher là, ici. Et là, c'est vrai.
Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, moi, les gens qui ont des problèmes dans leur maison, quand j'ai arrêté, je leur ai dit, allez voir un prêtre. Parlez à un prêtre de votre problème. Déjà, si vous avez fait venir des gens qui ont pratiqué le magnétisme, tout ça, allez vous confesser, demandez la confession pour vous libérer de tous ces péchés, pour pouvoir protéger vos familles. Et je leur dis, allez voir un prêtre. Alors, on me répond, ouais, mais le prêtre, c'est pas. Vous lui dites au prêtre, s'il veut, il me rappelle, moi, il lui donne mon nom, il m'appelle, je me déplace pour le rencontrer s'il le faut. S'il faut que je fasse 2 heures pour rencontrer votre prêtre, je vais lui remettre les pendules à l'heure, lui rappeler qui je suis, comment j'ai été. Et il va peut-être comprendre le sens. Et s'il faut, j'irai voir son évêque. Bah oui. J'ai rien à perdre. Moi, j'ai rien à gagner dans l'histoire, rien à perdre non plus.
Alors, tu peux nous dire qu'est-ce que ça t'apportait sur le plan personnel?
Alors, quand on a été dans une famille où on n'a pas trouvé sa place, difficilement, très difficilement, beaucoup d'estime des gens, tapis rouge, les gens me recevaient comme un monsieur. J'avais un statut, une reconnaissance. J'étais Monsieur Boisgard. J'étais plus Boisgard fils, j'étais devenu Monsieur Boisgard, sur le père étant décédé. Vous êtes la relève, la vraie. Vous êtes celui qui devait être, voyez, un héritier. Imaginez. Et j'avais pignon sur rue, j'avais en plus une position sociale tranquille. Même si on me donnait ce qu'on voulait, ou 20 euros, ou 25 euros, j'arrivais à pouvoir, une période, changer de voiture tous les 6 mois. Maintenant, j'ai plus de voiture à moi. Bon. Et je vis autrement, mais mieux, finalement. Amen.
Alors, à un moment, il y a une remise en question. C'est quand même curieux, parce que apparemment, tu marchais très bien. Il a une belle maison. Hein. Voilà, du côté d'Amboise. Mais il y a un moment où tu arrêtes tout. Tu nous expliques?
En fait, parler franchement, pour être franc, est vrai. Pendant des années, j'ai pratiqué, pendant des années. Il y a eu un moment, 2016, 2017, j'étais fatigué. J'ai à ma femme, parce que je suis marié, hein, j'ai à ma femme, je ne sais pas, est-ce que je dois me mettre plus encore en profondeur pour aller aider les gendarmes à retrouver les corps perdus, pour pouvoir pour que les gens puissent faire le deuil des gens qui n'ont pas retrouvé? Pourquoi pas? Parce que ça, j'arrivais à les retrouver ailleurs. À retrouver les gens ailleurs, pardon, je parle toujours trop vite. À retrouver les gens ailleurs. Mais, ou alors, est-ce que je dois arrêter? Elle me regarde, me dit, Jacques Boisgard, t'as un problème? Ben, je sais pas. Je m'ennuie, je tourne en rond. Et là, me connaissant, avec le caractère que j'avais, mais j'avais peur de rien, en fait. Que de moi-même. Mais peur de rien. Là, ma femme me dit, ouf, bon, on en reparlera. Et en 2017, je reviens du bureau, et un soir, je me retrouve à lui dire, je pleure comme un môme. Je lui dis, il faut absolument que je voie le prêtre. Il faut absolument que j'aille me confesser de tous mes péchés. Elle me dit, ouais, là, il y a vraiment un problème. Les enfants à la maison, tout va bien? Je dis, non, ça va mal. Il faut que je confesse tout dès maintenant. On part à Amboise, j'habite à 3 km d'Amboise. Et là, j'arrive à Amboise, et puis je vois le prêtre, il venait juste d'arriver, qui me dit, écoutez, je viens vous rencontrer, mais voilà, il me confesse, c'est tout. Et ma femme me dit, il faudra qu'on se revoie parce qu'on devrait se marier à l'église. Bon, la semaine d'après, on y retourne. Et le prêtre, obligatoirement, si on se marie à l'église, il demande, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il demande à ma femme, elle dit, moi je suis comptable, histoire comptable, machin. Et vous, monsieur? Temps d'arrêt. Et je lui dis, magnétiseur, guérisseur. Ah, j'ai un problème avec ça. Et là, dans mon fond intérieur, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Je rentre avec ma femme en voiture jusqu'à la maison, 3 km, je lui dis, du presbytère d'Amboise. Et là, elle me dit, ouais, c'est un petit cureton, c'est un curé, il parle, il ne faut pas l'écouter. Lui, je l'écoute, je ne sais pas, mais lui, il faut que je l'écoute. Je rentre chez moi, je prends ma Bible, qui venait de Solem, j'ai dit, Seigneur Dieu, la première fois, je m'adressais à Dieu avec autant de vérité. Seigneur Dieu, montrez-moi que si ce que je pratique est contre vous, pas bien, montrez-moi ça tout de suite, s'il vous plaît, parce que là, je veux la vérité. Et là, Deutéronome 18:9. Alors, j'ai amené ma petite Bible, qui est très complète. Je vais vous lire incantation, montique ou magie, personne qui use de charme, qui interroge les spectres et devins, qui invoque les morts, car quiconque fait cela, ces choses-là, est une abomination aux yeux de Dieu. Alors là, je me suis dit, je suis en relation avec les défunts, ça commence, je suis en relation avec les défunts, je devine des choses, j'ai compris que c'était pour ma pomme. Je m'écroule, vous voyez l'homme là, il y avait le deuxième intérieur, il n'existait plus. Je m'effondre comme une... Et là, j'ai mal, parce que là, je me rends compte du mal que j'ai fait à Dieu. Prise de conscience profonde. Et là, je me rends compte Et ma femme me dit, oui, mais non. Je dis, non. Après, il y a eu la descente vers le bas.
Alors après, tu t'es senti mieux ou pas?
Non, pas du tout. Pas du tout, parce que il y a eu cette remise en question sur mes croyances personnelles, ancestrales, car mon père terrestre était l'homme au-dessus de tout. Il n'y avait pas Dieu, il y avait mon père, car mon père c'était l'homme. L'homme qui était tout. Tout à 3000% pour moi. On était devenus qu'un en deux. On pouvait se regarder et pas besoin de se parler pour savoir ce que l'un pensait de l'autre. Et là, je me dis, pourquoi ? Pourquoi ? La colère, le chagrin, complètement paumé. Point d'interrogation, qui suis-je ? J'ai un nom, mais qui suis-je, moi ? Là, je me dis, on m'a menti. Et là, je ne peux pas tolérer ça. Je me retrouve après à dire, mais il faut qu'on m'aide. Et je dis à ma femme, je sors ça comme ça, je dis, il n'y a que les prières qui pourront m'aider. Le prêtre de ma paroisse cherche un endroit. Saint-Denis du Maine, de passer de malédiction à la bénédiction. Père Timothée, Longhi. Moi, je dis, je ne sais pas, j'y vais. Si je dois aller là-bas, je vais là-bas. Et je pars en début mars à Saint-Denis du Maine pour me faire aider en prière. C'est vous qui direz, en prière pour pouvoir m'aider à sortir de ce mauvais carcan. Alors, est-ce que vous pensez que ça a été simple? Non, c'est pas hop. Parce que quand je suis rentré chez moi après cette semaine passée à Saint-Denis du Maine, l'autre, il s'est acharné sur moi, sur mon enfant, parce que j'ai un fils, un dernier fils qui a 9 ans. À l'époque, il avait environ 3 ans. Et le petit, d'un endroit à un autre, il s'est retrouvé debout, sans qu'on le touche. Et puis, plein de choses se passaient dans la maison, enfin bref. Et si vous voulez, là, c'est dur, parce que lui, il s'en prenait à moi. Et puis, pendant 2 ans et demi où j'ai fait une dépression ensuite, nuit et jour, l'autre me parlait. Tu m'appartiens. Il ne parlait pas de Sainte-Marie comme Sainte-Marie, attention. C'est une horreur. Il voulait me pousser à faire du mal au mien. Il fallait surtout pas mettre de fourchette, de couteau, toute arme, parce que je dis non, éloignez ça de moi. Et quand j'ai arrêté, il y a un détail que je voudrais préciser, si faut pas l'oublier, c'est que ça m'a ramené à l'enfant de 10-11 ans. Un petit garçon qui a peur de tout, qui n'a pas confiance en lui, et tout l'inquiète. J'étais devenu un môme. Imaginez 2 ans et demi. Nuit et jour, l'autre vous bassine. Parce que vu que j'arrivais à rentrer en contact avec des soi-disant défunts qui ne sont pas des défunts, qui sont des esprits mauvais, eh ben j'entendais ce qu'ils me disaient et je le voyais. Horrible.
Et si j'ai bien compris, les esprits en question étaient méchants finalement avec toi.
Oui.
Alors qu'avant, tu étais plutôt l'homme fort et du coup tu es devenu l'homme faible.
Oui.
Et avec des attaques intérieures et extérieures,
oui,
dans la maison et sur ta famille. Tu peux nous expliquer un peu ?
Alors, ce qui est arrivé, c'est comme Père Timothée, la première fois que j'y suis allé au mois de mars, avant ça, j'étais un homme fort, je pouvais me brûler, je ne chantais pas à brûler, c'est le lendemain matin, je me suis brûlé, je pouvais soulever des choses. Quelqu'un, si je me battais avec un homme pour me taper, je ne chantais rien, mais par contre, il volait. J'avais une force, mais démesurée. Et les gens avaient peur de moi, même en les regardant. De loin, je les regardais, ils flippaient. Parce qu'ils disaient, vous êtes plein de choses, vous, puis vous, nous faites peur. Par contre, après, c'est moi qui est devenu le peureux, la faiblesse totale. Ils s'en prenaient au mien pour que les choses bougent dans la maison, s'allument, s'éteignent la télé, ou les portes qui claquent, ou des jouets qui s'allument tout seuls. Mon fils surtout, le petit dernier, parce qu'il m'a dit « si toi je t'ai pas, j'aurai lui, vu que c'est ton héritier. » Ah, pour moi c'était difficile. Et vis-à-vis de mon couple aussi, parce que ma femme, avoir une loque, un homme dur, comme de l'acier, c'est maintenant on avait dit, ce fils-là c'est un boisegard, c'est de l'acier, on ne les plie pas comme ça. Sauf, après j'étais devenu une loque, ma femme, elle avait un petit enfant à la maison, en plus de son enfant. Et là on se retrouve persécuté. Et moi un soir je vais me coucher, je le dis librement parce que c'est clair, je vais me coucher, ma femme va se coucher aussi, d'un seul coup je suffoque. Et la grosse surprise, c'est que je me retrouve avec une marque de transculation ici, comme si on m'avait donné un coup de couteau. Ce qui est hallucinant, c'est que normalement, au bout de plusieurs minutes d'absence, voire 45 minutes de plus savoir qui j'étais, j'aurais pu être là. Je suis encore là. Un brancardier de la Martinique qui est venu, du SAMU, a dit « c'est pas nous qui allons l'aider, c'est un prêtre ». Sauf le brancardier n'a jamais existé, je l'ai vu moi. Mais il n'a jamais existé à l'hôpital, ils ne l'ont jamais vu au SAMU. Après, ça peut être un ange, hein, je ne sais pas. Mais voyez, l'autre, il va vous persécuter jusqu'à vous détruire. C'est moi, il m'a dit, je vais te détruire. Et qu'est-ce qui m'a aidé? J'ai une croix du Christ chez moi, le crucifix, c'est très important d'en avoir un chez soi, mais pas dos au mur ou caché dans un coin, bien en évidence, parce qu'on est chrétien, on n'a pas honte de l'être, du moins je pense. Comment les pauvres chrétiens. Je l'ai toujours chez moi, je l'avais entre mes mains. Et je l'ai gardé entre mes mains tout le temps. Parce qu'un des garçons, un de mes beaux-fils, qui sont comme des fils pour moi, que j'ai élevé comme des fils, il me l'a mis, Mike, il me l'a mis entre les mains, il a dit il faut lui mettre entre les mains. Il a eu cette réaction, le môme, et je l'ai gardé entre les mains. Et ce qui m'a sauvé, c'est le Christ. Rappelez-vous-en.
Qu'est-ce que tu as fait des Bouddhas que tu es chez toi alors?
Je les ai balourdés, virés. Je me suis séparé de tout. En fait, il faut savoir que quand j'ai arrêté, j'ai un tempérament, c'est quitte ou double, oui ou non. Le peut-être me dérange énormément. Ce peut-être, ça veut dire que c'est pas clair, c'est oui, mais oui, non, non. Là, ça me bassine. J'ai tout arrêté. J'ai dit au prêtre, on fait quoi? Il dit, on boit le roi, on a tout. Avec un prêtre, j'ai tout fait avec le prêtre de la paroisse, je me suis séparé de tout. Mais sauf, il fallait aussi faire un travail intérieur. On va l'expliquer après. Mais je me suis séparé de tout, même du Bouddha.
Alors, donc.
Des pendules aussi.
C'est vrai que j'ai connu Jacques à la Cité de l'Immaculée, en Mayenne, où on organisait des retraites spirituelles. Et on avait une retraite qu'on avait mise en place qui s'appelait De la malédiction à la bénédiction. Et qui durait 5 jours. Et c'est vrai que là. J'ai été amené, moi, à apprendre, enfin, à faire connaissance de Jacques. Et on a eu donc plusieurs exorcismes sur lui qui, au début, ont été assez mouvementés, mais qui se sont bien finis. Enfin, il a fallu quand même 2 sessions à 2 mois d'intervalle. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après cette étape d'exorcisme?
Alors, il faut savoir que je suis un petit peu têtu, et merci Seigneur de me permettre, parce que si je ne l'étais pas, peut-être je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. En fait, les remèdes qui ont lieu après ces 2 exorcismes, à Saint-Denis du Maine, j'ai eu un accompagnement spirituel au Puy-en-Velay, de façon de consoler le petit enfant. Je suis parti à l'école de Samuel, Paris, Sainte-Trinité, pareil, pour que le petit enfant soit, on va dire, libéré de tous ses tracas d'enfance et pour que le petit enfant puisse devenir l'homme.
Autrement dit, tu as eu besoin d'un temps qu'on va appeler guérison intérieure ou pacification intérieure.
C'est ça. C'est exactement ça. Puis, il a fallu que je chemine. Alors c'est vrai, quand je partais dans des retraites comme ça pour qu'on puisse m'aider en plus de tout ce qui avait été fait à Saint-Denis du Maine, c'était dur pour moi parce que je quittais les miens, c'était dur pour moi parce qu'il fallait que je fasse face à moi-même, me mettre en vérité devant le Seigneur. Parce que, faut être honnête, pendant des années j'étais dans le mensonge, moi le premier, moi qui ne le supporte pas mais je l'étais, et j'étais entouré de menteurs. Et je me dis, mince, là, ça ne va pas. J'ai dit, il faut absolument que ça soit dans la vérité de Dieu. Car la vérité de Dieu n'est pas celle des hommes. Rappelez-vous-en. Et il faut savoir que ce cheminement n'est pas simple. Parce que ce qui m'a permis de le faire, c'est que ma femme a dit, bon, vas-y, parce qu'elle voulait que je sois enfin libéré. Quelque part, elle m'a dit, vas-y, je suis parti. Puis pour moi, c'était obligatoire, je ne pouvais pas, il fallait que j'arrive à sortir de ça. Et pourtant, moi, je défendais cette cause à 3000%, rappelez-vous, comme saint Paul. Et si un jour on m'avait dit que j'allais critiquer et que j'allais remettre en question tout ce que j'ai pratiqué, j'aurais dit, c'est pas demain la veille, parce que je l'ai déjà dit. Et la preuve, hein?
Bon, est-ce que tu es devenu maintenant un homme fort qui n'a peur de rien, hein?
Maintenant, je te prends le goût, j'ai des peurs comme tout homme. Si un homme qui n'a pas peur serait un menteur, on a tous des peurs. Peur de moi quand je me lève le matin en me regardant dans la glace. Oh, quelle horreur! Non, je plaisante. Non, si, c'est vrai, ça m'arrive d'avoir des peurs. Je suis devenu fragile parce que depuis tout ça, j'ai développé diverses maladies auto-immunes qui font que je touche une pension d'invalidité et que. Quelque part, au début, j'étais toujours pris. Mes amis et mes potes, comme je dirais chez moi, disent « Jack, tu vas faire quoi? Si tu fais plus rien, tu vas tourner en rond. » Mais non, 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 les gars, restez vieux, vous. J'ai autre chose à faire. Je suis dans diverses associations caritatives. On m'a mis en pension d'invalidité il y a 2 ans en arrière. J'ai regardé le Seigneur, j'ai dit « Vous avez peut-être un plan pour moi. » Et finalement, ce plan est bien parce que je vis ma life tranquille. Je vais prier quand je veux, et je prie, parce que je suis devenu pratiquant, et j'essaie de prier en vérité, avec le cœur, et non récité. Et aujourd'hui, c'est vrai que ma vie est complètement différente. On a gardé notre maison, on a failli être saisi plusieurs fois de notre maison quand j'ai tout arrêté, parce qu'ils vous ramènent avec les 2 arriérés, 2 ans d'arriérés, de frais, tout ça, huissier et compagnie. On avait fait introniser Sainte-Marie dans notre maison en 2019. On a toujours cette maison de 250 mètres carrés, une vieille maison de 1850. Et bon, j'ai pas de bagnole, mais tout va bien. Mais à part ça, je vis vraiment autre chose. Je me sens un homme nouveau et je vous confie un secret, je me sens plus en paix aujourd'hui qu'hier. Et quand je m'assois sur une chaise, parce que j'avais les fesses entre 2 chaises, si on me disait les gens importants de Tours qui voulaient faire un livre d'or sur moi, j'ai dit gardez-le parce que des fois ils vont me servir pour aller aux toilettes avec ma vulgarité. Il me disait, monsieur Boisgard, vous avez une place assise. Non. Il y a 2 chaises. Je ne sais pas laquelle prendre. Aujourd'hui, je sais laquelle prendre, celle de Dieu. Pas la sienne, mais celle qui va vers Dieu. Enfin. Et aujourd'hui, je sais que c'est Dieu. L'autre, basta la vista. Dehors. Et je voudrais faire une référence sur saint Paul que j'ai découvert, je me permets, saint Paul apôtre. Si je ne savais pas qui il était, c'est saint Paul. Quand on me l'a expliqué, un prêtre m'en a parlé, j'ai dit non, vous êtes un menteur. Il m'a dit merci. Il était content que je lui dise ça, parce que je ne savais pas qui était saint Paul. Et c'est devenu un chouchou pour moi, parce que j'ai découvert qu'il avait une écharpe dans la chair. Et j'en conclus que tous mes problèmes de santé que j'ai aujourd'hui, bah quelque part, j'ai trouvé ça bizarre. Merci Seigneur. Parce que dans ma faiblesse, ça me rappelle qu'il faut que je me mette à genoux pour vous suivre. Et ça me rappelle qu'un jour j'ai été orgueilleux, que je vous ai persécuté, et que j'en ai énormément vers le mal, et je vous en demande humblement pardon, mais qu'aujourd'hui, grâce à vous, j'ai été, on va dire, libéré de toute cette emprise démoniaque, de l'occultisme, et que je vis avec mes douleurs, et on m'a dit, mais tu vis comment? Tous les médecins qui me suivent sont surpris de me voir comme je suis. Et je leur dis, j'ai Dieu. Alors, d'ici votre Dieu, moi, mon Dieu dit qu'on va prier parce que avant de faire une intervention sur moi, on va prier. Et j'en ai pas le choix. On prie dans le bloc. Si. Tant qu'il ne touche pas à moi. Vous voyez? Voilà, tout simplement.
Alors, est-ce que, quand même, Jacques, d'après toi, il y aurait un bon magnétisme quand même? C'est-à-dire des magnétiseurs qui font pas plein de trucs occultes à côté. Et donc, leur magnétisme serait bien. Est-ce que tu penses ça?
Alors, Personnellement, on ne peut pas, nous, à notre niveau, être sûr à 100% qu'il y a du vrai bon magnétisme. Mais ma propre réflexion dit, c'est la mienne, et je l'assume, si on soigne quelqu'un et qu'on le guérit une fois et qu'il ne revient pas et on n'a pas toute la famille qui vient derrière, on peut supposer que ça pourrait être éventuellement. Mais, à mon niveau, je ne pense pas. Et en plus, il faudrait que des hommes d'église, parce que dans l'église, il y a aussi ceux qui ne veulent pas croire ou qui ne veulent pas voir, mais des hommes d'église qui puissent faire un discernement, savoir d'où vient le don, comment il est arrivé et sur quelle pratique on s'en sert. Du don, je ne parle pas des pendules, tout ça, attention, je parle du magnétisme. Mais on ne peut affirmer aujourd'hui s'il est sain ou pas. Moi, à mon niveau, avec tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai connu des gens qui ont pratiqué avant moi, que mon père m'a fait connaître pour développer d'autres façons de travailler. Parce qu'il disait, si ma façon de faire n'est pas suffisante, tu deviendras un très bon, voire le meilleur. Peut-être parfait. Je n'ai pas été parfait. Tant mieux. Parce que personne n'est parfait. Il faut savoir une chose, c'est que ces gens, quand ils sont décédés, je vous confie, je me permets de le dire, ils ont énormément souffert. Ils ont eu des souffrances avant de mourir. Mon propre père aussi. Je sais pas, moi. Un saint, l'odeur est suave ou il n'y a pas de souci? Je sais pas. On peut se poser la question. Pourquoi tous ces gens qui pratiquent se retrouvent avec des gros problèmes? Ou ils vieillissent mal, ils ont plein de trucs. Moi, j'en connais une qui est dans ma rue, qui touche, je lui dis, arrête de toucher. J'ai voulu lui lire Deutéronome. Non, Jack, je sais qui tu es, je sais d'où tu viens, tu sais qui je suis. Ouais, t'es ma voisine. Oui, mais tu sais plus. T'es ma voisine. Elle ne me dit plus bonjour, elle ne me parle plus. Sauf que j'ai dit, je prie pour toi, et si tu as un problème majeur, je viendrai t'aider quand même. Parce que je veux être charitable. Vous voyez ? Mais je la vois vieillir, mais elle vieillit mal. Et je prie pour que les gens n'aillent plus la voir. Je vais lui dire. Hein. Vous voyez ?
Alors, est-ce que, tu sais, il y a des gens qui ont un pendule ? Moi, j'ai connu des prêtres qui utilisaient le pendule. Donc, est-ce que ça peut être bien, parfois, ou pas?
Alors, un prêtre qui a un pendule, je vais parler franchement, j'en ai connu un. J'étais devenu son disciple, celui qui m'a laissé les deux étoles. Je travaille avec vous, non. Parce que le pendule, ça fait appel à une énergie, à quelque chose, à une puissance qui ne vient pas de Dieu. J'ai une sœur qui habite sur Bordeaux, qui n'est pas bordelaise, hein. On ne se parle plus, ma sœur jumelle. Un jour, elle m'a dit, j'ai des pendules, j'ai tout ça, j'ai viré moi ça de là. Et je ne m'étais pas encore converti. Elle n'a pas d'enfant, elle a toujours des problèmes de santé, plein de soucis. Elle a dit, je peux pas. Elle m'a même insulté. Si on ne peut pas se séparer de ces pendules, c'est pas normal. Comme moi, je prenais un pendule, je le mettais comme ça, je lui demandais tout ce que je voulais, il faisait ce qu'il voulait. Si je le mettais dans la main d'une autre personne à côté de moi, par exemple vous, vous l'auriez tenu, avec mon doigt, j'aurais fait ça, il aurait tourné sans que vous le touchiez. Comment on fait ça? Alors c'est de la magie. Un prêtre qui a un pendule, non. Ou alors c'est un prêtre qui est un peu barré. Un prêtre barré. C'est comme dans tous les domaines, il y a des gens barrés. Et bien il y a des prêtres qui ne sont pas prêtres, qui ne sont pas très prêtres. Excusez-moi, il y a les bons bergers, et puis il y a les mauvais bergers. Et cela, basta.
Alors ce qui est étonnant dans ton histoire, effectivement, on l'a souligné tout à l'heure, tu allais dans les maisons et tu faisais des prières chrétiennes.
Oui. Donc. J'ai des maladies.
Et ça marchait, entre guillemets. Alors, est-ce que c'est bien ça ou pas?
Alors, sur le coup, quand je l'ai fait, pour moi c'était le top. Hein. J'étais au top, du moins. J'ai du monde, puis ça marchait. Mais maintenant, avec du recul, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, je réfléchis beaucoup. J'ai besoin de comprendre mon histoire pour mieux en parler. Si on ne comprend pas son histoire, t'en se taire. Si on parle de quelqu'un qui a mal quelque part mais qu'on n'a pas vécu son mal, autant se taire. Pour moi. Là, non. Parce que faire des prières sur des gens ou souffler sur des gens sur une maladie en forme de signe de croix comme j'ai pu le faire, sur certaines maladies comme le feu, comme les zonas, c'est chrétien. Mais en parallèle, ce que je faisais, c'était non chrétien.
Ton cœur n'était pas chrétien.
Alors mon cœur, non, n'était pas chrétien avec toutes les erreurs que j'ai pu faire. Hein. Je vais vous raconter ma vie, mais pour vos enfants, ils passeraient la journée, voire plus. Hein.
Alors je pense que c'est très important pour nous de bien comprendre ça, que nous pouvons utiliser des prières, on en a parlé tout à l'heure, j'insiste un peu comme vous le constatez, il y a tout un marché des prières qui fonctionnent. Là, on est dans la magie blanche, et c'est une forme de blasphème, puisque on va utiliser des forces, on va dire, et ce qui normalement est réservé dans le domaine sacré. Donc on met le sacré dans le culte. Et dans la magie blanche, qu'est-ce qui dirige ? C'est le guérisseur. Alors que nous, dans la prière, qu'est-ce qui dirige ? C'est Dieu. Alors justement, j'ai une question, Jacques. Jésus va envoyer ses disciples en leur donnant le pouvoir de guérir les malades en imposant les mains. Est-ce qu'ils avaient du magnétisme ?
À mon niveau, allez, je parle franchement. Pour moi, c'est l'Esprit Saint qui agit à travers ces hommes. Parce que quand l'Esprit Saint agit en vous, j'ai vécu cette expérience au Puy-en-Velay. L'Esprit Saint, c'est inimaginable ce qu'on peut ressentir. Il peut vous faire tomber comme il peut vous relever. Et ce n'est pas vous qui contrôlez la situation. Amen. Mais pour moi, un homme qui pose ses mains, qui dit rien comme j'ai pu faire, qui ressent de la chaleur, machin, c'est pas l'Esprit Saint. C'est ce que je trouve difficile aujourd'hui. On ne peut pas prouver, comme je veux dire, le magnétisme, si c'est bien ou pas bien. Mais après le nombre d'années d'expérience et d'où je viens, d'une famille, côté paternel, du côté de la mère, mon père, ancestral dans ce milieu, et du côté de ma mère, il y en a qui touchait aussi. Et par rapport à ma propre expérience, non. Pour moi, c'était pas du magnétisme, c'était l'Esprit Saint qui passait à travers eux. Voilà.
Bon, il ne faut pas être impressionné, hein, tout va bien. Alléluia. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions parmi vous ? Puisqu'on a encore à peu près 10 minutes devant nous. Viens, s'il te plaît. Oui. Alors, c'est Marie-Ève qui me fait une remarque intéressante. Il y a effectivement dans le renouveau charismatique la question de l'imposition des mains. Bon, donc l'imposition des mains, évidemment, c'est un geste qui est repris des actes des apôtres et aussi de l'Évangile, puisque quand Jésus impose les mains, c'est un signe de bénédiction. Dans la Bible, quand David bénit le peuple, il n'avait pas encore la croix à l'époque, il impose les mains. Donc c'est un signe de bénédiction. Mais effectivement, vous avez des personnes qui ont développé un magnétisme qui en soi n'est pas sain. Et c'est vrai que lorsque on se fait imposer les mains par des personnes comme ça, il peut y avoir un danger. Alors, est-ce que tu veux expliquer pourquoi ?
Un jour, on a imposé les mains sur moi lors d'un rassemblement charismatique. Et alors, je ressentais effectivement du froid, beaucoup de froid. Et puis après, ça a été de la chaleur. Et en fait, heureusement que j'avais un prêtre qui m'accompagnait. Parce que quand je suis ressortie de cette prière, j'avais comme une double personnalité en moi. J'étais double. Il y avait des choses que je ne reconnaissais pas chez moi. Et il a fallu 3 prières de délivrance pour m'en délivrer. D'accord ? Et ça, grâce à un prêtre, j'ai pu percevoir, parce que par notre hypersensibilité, je m'étais tout reçu, en fait, de la personne qui avait prié sur moi. Et comme elle était négative, je me suis tout ramassé, c'est le cas de le dire. Voilà. Donc faites attention, faites attention. Au moins, même pour vous, n'allez pas prier sur des personnes alors que votre généalogie n'est pas guérie. D'accord, il faut être net avec nous-mêmes et être en vérité pour pouvoir, et qui plus est, il faut un discernement avant toute chose. On ne peut pas rentrer chez des priants ou dans le renouveau comme ça avant de savoir et d'être confirmé par la grâce dans nos charismes et pas un don. Voilà, amen.
Alors, je fais une remarque, justement, dans mon équipe, depuis quelques années, j'ai été amené très attentif à ça. Donc, les personnes qui sont dans mon équipe ont été discernées. C'est-à-dire, s'ils vous touchent, il n'y a aucun souci, quoi. Mais il a fallu un discernement. Donc, soyons prudents par rapport à ça, surtout si vous avez une hypersensibilité. Je laisse parler aussi Jacques.
Voilà. En fait, c'est bien que Marie-Ève ait relevé ceci, parce que depuis que j'ai tout arrêté, je suis devenu hypersensible au bien et au mal. Merci Seigneur. Quand des gens venaient me toucher, des laïcs pour me toucher, pour faire sur moi des prières, je dis non, ne me touchez pas, quel n'est pas être pourquoi, d'où je viens, c'est non. Tu viens d'où? De l'endroit d'où je viens. Ils n'ont pas la réponse, pour ça ils ne savent pas. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne sait pas si la personne qui va vous faire des soi-disant prières, on ne sait pas ce qu'elle a dans son cœur et ce qu'elle a été voir. Imaginez si la personne a été voir des magnétiseurs de guérisseurs, tout ça. Ah bah, je te pose ma main, je te prie sur toi, tout va bien. C'est marrant, je rentre chez moi, je suis encore plus mal qu'avant. Attention, n'allez pas vous lancer tête baissée dans la gueule du loup. Priez, l'Esprit Saint, aidez-moi, discernez, prenez le temps pour aller vers la bonne personne. Pas faire l'effet de claquage, allez, je suis sur mon portail, je la réponse tout de suite. Non, il faut se creuser les ménages un peu, puis surtout le cœur. Il n'y a que comme ça qu'on revient à Dieu, et qu'on s'y applique tous les jours. Voilà ce que j'allais dire.
Vu ton expérience, vu ta vie, vu ton expérience et vu ta vie, et vu ton parcours et... avec tous ces passages dans l'ombre et dans la lumière, qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens?
Je vais être cash. Dans le Nord, on est cash. Non, je plaisante. N'allez plus voir ce genre de gens, magnétiseurs, taromanciers, pendules, sourciers. N'allez plus voir ces gens. Mais, je sais pas, quelqu'un un jour m'a dit, s'il y avait la fin du monde demain, tu ferais quoi? Déjà, je me mettrai à genoux et je prierai pour demander au Seigneur de me pardonner tous mes péchés. Et parce que tout de suite, dès qu'on a peur, tous, moi je l'ai fait, j'allais voir des gens pour savoir si j'allais y arriver. Parce que pour moi-même, je n'arrivais pas à voir pour moi, je me trompais tout le temps. Les films médias, non, c'est pas bon. N'allez plus voir ce genre de gens. Allez confesser, confesser auprès des prêtres que vous avez côtoyés ou rencontrés des gens. Et si dans votre famille ils l'ont fait, allez leur demander. Plus vous allez confesser, plus vous allez vous libérer et plus vous serez pardonné. Car la miséricorde de Dieu, elle est infinie. Il m'a pardonné. Et pourtant, j'étais un saint Paul, apôtre, à mon niveau. Moi, si je vous le dis, comme saint Paul, sauf que je n'ai pas lapidé des gens, mais j'ai fait fort, hein, je peux vous le dire. J'ai cartonné sur toutes les coutures. Et il m'a pardonné. Et j'en suis sûr. Donc, moi, je ne serai pas là aujourd'hui. Alors, n'y allez plus. Je vous le demande, au nom de Jésus, de ne plus y aller. Amen.
Encore une question? Alors, si effectivement vous avez été voir un voyant, confessez-vous, parce que c'est le nom du péché. Notre vie n'est pas écrite à l'avance. Donc, c'est un manque de foi, c'est un péché contre Dieu. Donc déjà, c'est une démarche pénitentielle qu'il faut faire. Et puis, demander à ce que aussi soit coupée la programmation qui est faite. Je raconte juste peut-être une histoire que je vous ai déjà racontée. C'est un Remels, qui est un confrère de Belgique, qui nous disait qu'un jour, dans une école, il disait « ce que je vous dis ». Et il y a une fille qui est venue le voir, c'était une élève, et qui est venue le voir en disant bah, « Avec ma copine, on a été voir la voyante. » Et puis, elle a dit « C'est horrible, vous allez mourir à 18 ans. » Et sa copine était morte, elle avait eu 18 ans. Et cette fille-là allait avoir 18 ans. Vous comprenez la panique ? Voilà. Alors le père a juste prié aussi sur elle pour demander à Dieu eh bien, de casser cette programmation. Parce que si vous allez voir un voyant, vous vous programmez. Ce n'est pas seulement psychologique, il y a un aspect spirituel aussi. D'accord ? Vous reliez à un démon. Il faut bien comprendre ça. Et donc, cette fille a pu passer ses 18 ans sans problème. Vous voyez ? Alors, il y avait aussi la question, la voyante qui dit « Ah, c'est horrible, je vois, c'est votre oncle, je pense que c'est votre oncle, il a un accident, il va avoir un accident, il va mourir. » Alors, la personne, elle s'est dit « Je ne le dirai à personne, je ne veux surtout pas en parler, parce que comme ça, ça ne va pas arriver. Figurez-vous que c'est arrivé. » Donc, ce n'est pas psychologique, ce n'est pas parce que je te dis « Tiens, on m'a dit que… » Non, non. Donc, cette femme-là a eu un tort, c'est qu'elle ne s'est pas repentie sur le moment d'avoir été voir le voyant. Et d'autre part, il n'y a pas eu une prière d'autorité pour casser ce sort. Parce qu'en fait, c'est comme un sort, c'est le même principe. Je vais laisser parler.
Moi, ma grande question, c'est quand on a une mère qui a pratiqué, qui est allé voir des voyants, des cartomanciens, qui m'a emmené quand j'avais 16 ans voir une cartomancienne. Moi, je l'ai soumise parce que j'obéissais à ma mère, j'étais soumise. Et qui m'a emmené quand j'avais 18 ans voir un salon de la voyance et chacun pouvait poser des questions par les lignes de la main. Quand elle a pratiqué pendant des années, ces choses-là, nous, on a subi, du moins moi, elle m'a emmenée voilà, voir, alors que je ne voulais pas, je ne savais pas, je ne connaissais pas. Mais quand même, on est cinq frères et sœurs. Et toute notre vie, ça a été une vie catastrophique. Quoi. Mmh. Mais voilà, moi, je n'ai jamais rien demandé par ma mère. Est-ce que moi, personnellement, je suis en tort. Qu'est-ce que je dois faire ?
La question va être vite répondue. En fait, même si vous n'êtes pas responsable, confessez que votre mère a été voir ce genre de gens, que vous avez été mis sous cette emprise non voulue. Et si elle avait été voulue, le Seigneur pardonne. Et là, elle est non voulue. Et allez aussi prier pour votre mère. Moi, j'ai ma mère qui a fait comme la vôtre. J'y parle plus parce que du jour que j'ai tout arrêté, j'étais considéré comme un traître. Même des gens qui m'ont appris, j'étais le traître. On m'a menacé, on m'a insulté par téléphone. Car j'étais devenu celui qui avait abandonné le circuit. Mais voyez, et je pense que Père Timothée va rejoindre ce que je dis, confession pour votre mère aussi, allez dire qu'elle a côtoyé et qu'on prie pour vous et que priez surtout pour son âme.
Parce qu'en 2005, elle est allée jusqu'en Belgique voir, elle habitait Pau, Belgique. Pardon. En 2005, moi, j'étais mariée, donc, avec un enfant. Elle est allée voir, soi-disant, parce que mon couple battait de l'aile, soi-disant pour m'aider à ce que mon couple revienne normal. Elle est allée jusqu'en Belgique voir un voyant qui, lui, avait des images religieuses. Pour elle, ma mère, qui est bigote, on va dire, elle est pratiquante chrétienne, mais plus de bigoterie qu'autre chose. Elle dit, oui, mais il y avait des images de Jésus, de Marie, non, de Jésus surtout, il y avait des croix. Et ce voyant lui avait prédit que ses trois filles allaient divorcer. Et c'est le cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Oui.
Je vais être bref. Alors, j'ai ma mère aussi, quand j'étais en Afrique. J'ai ma grande fille qui a 26 ans. Alors, ma mère est allée voir une voyante. La voyante a dit, à l'âge, quand j'aurai mon premier enfant, je vais mourir. Et ma mère avait peur que je tombe enceinte. Alors, quand j'ai eu ma première grossesse, voilà, j'étais en travail au moment d'accoucher. Je priais beaucoup le rosaire, par contre. J'étais toujours avec mon chapelet, je ne sais pas pourquoi. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours fait mon chapelet. Dans ma famille, personne ne priait. J'étais la seule qui priait, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mon mari m'avait choisi. Et donc, du coup, au moment de l'accouchement, Ma maman n'était pas là, j'étais seule et mon compagnon n'était pas là, il avait voyagé. Et voilà, donc j'étais seule dans la maison au moment de l'accouchement. D'Afrique, c'est très compliqué, appeler un taxi. J'étais avec l'enfant, j'avais mon chapelet, je priais mon rosaire pendant que j'étais en travail parce que je savais que j'allais mourir parce que ça a été prédit. Maman avait peur. Et moi, j'étais dans les prières aussi, je priais beaucoup avec le groupe de prière, je priais beaucoup. Et donc je disais non, ça ne va pas m'arriver, je ne vais pas mourir, il faut que je me batte dans la prière. Et donc j'ai continué de prier. Au moment de l'accouchement, je faisais mon chapelet. La voisine est venue à côté, une voisine qui voulait couper le cordon. J'ai dit non, 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 laissez. C'est ma maman qui le fait d'habitude pour toutes les femmes de la famille. Mais comme maman n'est pas là, je préfère aller à l'hôpital. Et donc, du coup, elle n'a pas fait. Deuxième fois, on appelle le taxi. Il ne vient pas. Troisième fois, donc j'ai accouché, j'étais assise. L'enfant était par terre et j'avais le placenta qui prenait l'air. Tout prenait l'air et c'était risqué pour moi. Mais je priais quand même jusqu'à ce qu'un taximètre réponde parce qu'on est dans des villages et donc c'est un peu loin de la ville. Donc au moment, il arrive avec plein de sang, j'étais remplie de sang, je me mets dans le taxi et le taxi m'amène jusqu'à la ville. Et là, quand j'arrive, l'infirmière me dit, si vous n'étiez pas arrivée 2 minutes avant, vous serez morte avec l'enfant. Et j'ai réussi à être sauvée avec l'enfant 2 minutes. Ça veut dire, même si les parents vont, notre prière, notre bouclier, c'est la Vierge Marie, c'est le chapelet. Et moi, j'ai vaincu ça. Aujourd'hui, je suis la seule dans ma famille qui prie beaucoup et je confie toute ma famille en prière parce que j'ai confiance en la Vierge Marie qu'elle fera quelque chose. Aujourd'hui, ma fille a 26 ans. Voilà.
Voilà. Alors, effectivement, on n'est pas comme dans un manichéisme, si vous voulez, avec les forces du bien, les forces du mal. Dieu est le fort. Voilà, si vous êtes du côté de Dieu et que votre prière, ce n'est pas juste des récitations comme ça, il n'y a rien à craindre. C'est vrai, n'hésitez pas, dans ce cas-là, à avoir une prière d'autorité au nom de Jésus, que soit coupé ce cordon ombilical, soit coupé cette programmation sur moi, si j'ai été voir, etc. Faites prier vos amis. Mais j'allais dire, ce sera suffisant largement, vous voyez, cet acte de foi. Bon, voilà.
Pour le voyant. Pour le voyant, il a raison. Je le dis parce qu'on influence la personne, en fait. On m'a posé la question il y a quelques temps, on m'a dit, est-ce que, d'après ce que tu disais aux gens, tu as pu influencer leur vie? Je dis oui. Un exemple que j'ai donné, une femme qui travaillait dans l'assurance, je lui dis, demain, tu changeras d'assurance, tu iras travailler dans une banque. Demain, pas peu de temps, à l'époque. Peu de temps après, une voix me dit, j'ai quitté l'assurance, j'ai démissionné, je travaille dans une banque. Je dis, ah, vous voyez comment on peut avoir un effet gourou, parce que les gens qui sont naïfs, on est tous naïfs, hein, on tombe dans cette spirale, il m'a dit, demain, il ne faut pas que je prenne ma bagnole, je vais avoir un accident. Demain, je ne prends pas ma bagnole. Mais j'ai un accident 3 jours après, mais pas grave. Finalement, il m'a quand même sauvé, parce que si j'ai eu l'accident 3 jours plus tôt, je serais peut-être mort. Vous voyez comment on peut avoir une influence sur les gens. Tous ces gens-là, hommes ou femmes, attention, danger. Quand vous voyez un panneau de danger, vous n'y allez pas. Voilà la même chose.
Et il faut comprendre que ça n'est pas seulement une influence d'ordre psychologique. C'est un lien spirituel aussi. Ça vous aide bien comprendre ça. Voilà, je propose maintenant que nous nous levions pour un petit temps de prière.
Je vais faire une prière, j'aime bien faire ma prière, une prière que j'ai.
Seigneur, je bénis de m'avoir mis à l'aise, je défends ce que je veux, d'avoir ouvert mon cœur à la vérité, d'avoir ouvert mon cœur à la vérité, et d'être devenu un homme nouveau, de m'avoir révélé votre miséricorde. Je vous remercie pour ce chemin de vie que vous ouvrez devant moi. Amen.
Amen.
L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie.
Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. pécheurs.
Et l'habité parmi nous.
Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Ainsi soit-il.
Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu,
afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ.
Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen.
De bénir notre repas, Seigneur, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit.
Amen.
Un grand merci à Jacques.